À tout le Merci Gaussou pour cette présidence. Merci à chacun pour votre. Voilà, merci beaucoup pour ce moment que le Seigneur nous a donné de pouvoir partager ensemble. Nous rendons grâce au Seigneur et nous accueillons nos frères, des visiteurs qui nous visitent ce matin et vous êtes les bienvenus. Vous avez exposé un problème concernant votre vie personnelle, mais nous avons quelque chose de meilleur et qui peut vous combler ici ce matin, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons invité d'écouter la parole de Dieu et après nous pourrions prier pour vous et écouter les besoins que vous avez mentionnés. Voilà, donc vous êtes les bienvenus, que le Seigneur vous accorde sa grâce, sa compréhension de la parole qui sera donnée ce matin. Le dimanche dernier, qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que nous avons entendu comme parole de Dieu? Qui a retenu quelque chose? Oui? Les? Ne pas avoir peur. Voilà, Emmanuel Pronaman nous a partagé de l'importance de ne pas avoir peur, de sortir de son zone de confort et vraiment de faire confiance en Dieu afin de pouvoir rester devant lui et surtout d'obéir à Dieu dans la façon dont il voudrait que nous agissions, que nous n'ayons pas peur. Voilà. Dans la prière, si tu as peur de prier, ça peut être pour toi sortir de ton zone de confort de prier. Si tu as peur de prendre la parole en public, ça pourrait être quelque chose qui pourrait t'aider à prendre la parole en public et de ne pas avoir peur. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui a choisi de jeûner et de prier. Et nous avons aussi décidé d'accompagner cette jeunesse que nous sommes et que nous puissions vraiment rester dans cette dynamique du jeûne et de la prière. Et nous allons lire un texte. Dans 1 Corinthiens 9, verset 24-27. 1 Corinthiens 9, verset 24, chapitre 9, verset 24 et à 27. Si vous avez retrouvé, nous allons le lire. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. La parole de Paul en 1 Corinthiens 9, 24-27, la parole certainement de Dieu, inspirée de Dieu. Ici, nous ne voyons pas directement le jeûne comme une évidence, mais le jeûne fait partie de l'ensemble des disciplines spirituelles reconnue valable pour notre vie chrétienne. La vie chrétienne est un engagement dans une course que le Seigneur nous appelle à courir sans relâche, avec beaucoup d'ardeur et surtout dans la persévérance. Et Paul utilise l'image de l'athlète qui s'astreint d'une sévère discipline dans le but de gagner le prix. Nous savons que les athlètes, pendant les Jeux olympiques ou pendant les compétitions, chacun veut gagner, chacun veut arriver au bout. Et pour arriver au bout, les athlètes, les sportifs se mettent en évidence que je dois réellement courir, je dois m'entraîner, je dois redoubler d'efforts afin de pouvoir arriver. Les auditeurs de Paul étaient familiarisés avec cette métaphore, car l'Empire romain organisait des Jeux olympiques à la gloire de César. Cependant, les Juifs n'étaient pas du tout, ne voulaient pas participer. Ils se méfiaient de participer à ces Jeux, car les participants étaient nus, ils ne portaient aucun habit. Et en plus, les participants, souvent, il y a des jeux qui sont cruels. Par exemple, le combat des gladiateurs est un combat d'épée où il doit avoir à la fin quelqu'un, l'adversaire doit être terrassé et même souvent mis à mort. Et ensuite, les raisons pour lesquelles les Juifs ne participaient pas, parce que les Jeux étaient couronnés d'un prix luxueux et surtout à l'effigie de César. Et vous savez que l'Ancien Testament dit clairement qu'il ne faut pas se prosterner devant les idoles, devant les images. Et donc, Paul était vraiment familiarisé à ces Jeux-là parce qu'il était citoyen romain. Il avait fait ses études à Tarse et il était aussi familier et peut-être il a vécu, peut-être il est allé au stade pour voir comment ça s'est passé. C'est pourquoi il prend l'expression, il prend l'image, il prend l'enseignement du monde du sport pour comparer à la vie chrétienne qui est aussi une course. Il dit « courez de manière à remporter le prix » pour inviter les Corinthiens à lutter, à combattre, à se discipliner spirituellement en s'imposant des astreintes avec une abstinence volontaire afin de remporter le prix. Comment le chrétien peut-il se discipliner spirituellement comme l'athlète se discipline physiquement sans tomber dans le légalisme ou l'ascétisme? Vous savez, quand on parle du jeûne et de la prière, forcément, il y a des travers aussi qu'on doit éviter en tant que chrétien. Nous ne jeûnons pas pour obtenir notre salut. Nous ne jeûnons pas pour devenir un meilleur chrétien. Nous ne gênons pas pour dire aux autres que nous sommes plus spirituels que les autres. Mais nous gênons dans un but de nous remettre en question, de nous donner de la discipline, de pouvoir avoir le temps pour prier, pour rechercher à plaire à notre Seigneur. Donc nous allons d'abord voir comment nous pouvons méditer ces textes et surtout retirer les meilleures leçons dans ce texte pour la, notre vie chrétienne. D'abord, il faut s'entraîner. S'entraîner, les athlètes connaissent que la vie et leur vie sans entraînement ne pourra pas vraiment aller loin. Tous les athlètes s'imposent d'une discipline sévère. Paul prend cette image en disant, si vous êtes engagé dans la course, dans le combat, il faut s'imposer, il faut se dire qu'il faut s'entraîner. Tu ne peux pas ne pas t'entraîner parce que si tu ne t'entraînes pas, tu risques de ne pas de rater le but. Donc, s'entraîner, ça veut dire aussi prendre du temps. La discipline stricte ne peut se faire lorsque nous prenons le temps pour voir à quel niveau j'ai besoin d'avoir plus de force, à quel niveau j'ai besoin d'effort, à quel niveau j'ai besoin vraiment d'aller plus loin. Prendre du temps, par exemple, si les Jeux olympiques, c'est en 2021 à Tokyo, tous les athlètes sont actuellement, malgré le confinement, dans leur salon. Ils ont aménagé un lieu où ils peuvent continuer à s'entraîner. Mais pour s'entraîner, il faut faire le premier pas. Le premier pas est toujours difficile. Le premier pas nous invite à voir que si nous voulons débuter, par exemple, demain je me dis, je vais aller courir. Si je veux aller plus loin, il faut peut-être que je commence à courir 10 minutes, ensuite 15 minutes, ensuite 30 minutes, ensuite 1 heure. Et ainsi de suite, je vais courir 2 heures, 3 heures, 4 heures, 100. Et ça va devenir une habitude, quelque chose qui vient naturellement. L'entraînement ne devrait pas simplement se limiter dans un jour ou bien 2 heures. Je dis, je vais aller dans une compétition, je m'entraîne 1 heure. Et puis, je croise les bras, je dis, maintenant, je suis prêt. Ça risque de ne pas aboutir. S'entraîner, c'est faire des exercices qui apportent de la vigueur aux muscles du corps, mais aussi s'abstenir de tout ce qui pourrait affaiblir le corps. Sur le plan spirituel, le jeûne peut être un exercice qui nous aide à être disponible pour prier et aussi fortifier notre âme et qui est notre être intérieur. Le jeûne est un exercice qui nous entraîne, qui nous permet de voir que le corps a besoin d'être maîtrisé. Le corps a besoin d'avoir du temps pour permettre que notre âme puisse être nourrie. Par exemple, ce matin, avant de venir ici, ce matin, vous vous êtes discipliné. Votre réveil a sonné à 6 heures. Vous avez dit à votre réveil, peut-être attendre d'abord, il n'est pas 7 heures. Et à 7 heures, il résonne. Et vous lui dites, non, attends d'abord, je vais me réveiller à 8 heures. Et ainsi de suite. Et à 9 heures, si vous vous réveillez à 9 heures, vous dites comment je vais arriver ici à 10 heures. Et là, nous avons besoin de l'entraînement. Lorsque le corps s'habitue à se réveiller à 6 heures, à 6 heures, on est prêt à se réveiller, à se mettre debout. Parce que le corps a envie de se mettre debout et d'être en route. Mais lorsque nous ne sommes pas habitués à ça, si on se lève à 6 heures, c'est difficile, c'est toujours compliqué. Ces derniers moments, pendant le confinement, quand on a pris la chaîne de prière, au début, j'avais des difficultés pour envoyer le message le matin. Malgré qu'ils aient préparé la veille et tout. Mais à 7 heures, je dois envoyer les sujets de prière pour l'église. J'avais du mal à me réveiller. Et souvent, je me réveillais à 30, mais avec beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, à 7 heures, 6, à 6h30 déjà, mon corps est réveillé. Mon corps est réveillé et je ne peux plus rester comme ça, couché. Il faut que je me lève. Cela lui fait du bien. Il a envie de faire, d'agir. Et le corps, notre corps a besoin de discipline pour entraîner notre âme à rester dans une discipline aussi avec le Seigneur. Prendre du temps. C'est vraiment nous faire du bien et faire du bien à notre âme. Ce matin, vous avez pris votre temps pour jeûner afin de prier, afin de remettre votre année dans la grâce de notre Seigneur. Et petit à petit, ça va créer quelque chose. Ça va faire du bien à l'Église. Ça va faire du bien à toute la jeunesse. Ça ne va pas être une jeunesse endormie, mais une jeunesse vivante. Une jeunesse disciplinée au niveau spirituel pour aller au combat de la foi, au combat aussi de la vie chrétienne. S'entraîner, c'est aussi bien utiliser sa liberté. Nous voyons dans cet exemple que Paul donne, Paul est en train de traiter un problème dans l'église de Corinthe. Parce que à l'église de Corinthe, les chrétiens avaient pris le goût de la liberté. Parce que le Christ les a libérés, le Christ les a donné cette grâce de pouvoir se sentir libre de tout ce qui peut être contraignant vis-à-vis de la loi, des choses de la loi, de l'application stricte de la loi, du légalisme. Et cette liberté les a amenés à se dire, oui, j'ai le droit d'aller manger dans les maisons où on a sacrifié les sacrifices des idoles. Parce que pour moi, ce n'est pas le fait que je mange ces viandes sacrifiées aux idoles que ça devient quelque chose pour moi. Pourtant, dans l'Église, il y avait des personnes qui pensaient que si je vois un chrétien aller manger cette viande, ça va être un scandale pour eux. Ça va les faire tomber. Et cette liberté, Paul les appelle à mieux utiliser cette liberté pour ne pas faire tomber les frères et sœurs au niveau de l'Église. Cela aussi nous interpelle ce matin, parce que notre liberté peut être utilisée d'une manière qui va amener un frère ou une sœur à tomber ou à renoncer sa foi. Et ça fait partie de la discipline spirituel, de se dire si ma liberté va amener un frère ou une sœur à s'écarter de la voie du Seigneur, je n'utiliserai pas mon droit. Je n'utiliserai pas cette liberté. Parce que cette liberté cause un tort à mon frère ou à ma sœur. Et c'est ce que Paul va dire aux Corinthiens, vous avez la liberté, mais je vous invite à la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, de ne pas avoir, de se maîtriser pour ne pas aller manger les viandes sacrifiées aux idoles qui vont scandaliser les autres frères pour les amener à chuter. La maîtrise de soi est décrite en Galates 5, verset 22, comme le fruit de l'esprit. La maîtrise de soi comme fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Qui a retrouvé? La maîtrise de soi. C'est maîtriser. Comment peut-on maîtriser notre corps, notre émotion, notre pensée, si nous laissons notre pensée, nos émotions à sortir et à causer peut-être des dommages à l'endroit de nos frères et sœurs? Le jeûne et la prière visent la maîtrise de soi aussi. Parce que je me maîtrise, je m'astreins, je m'efforce de ne pas manger, de ne pas boire et de prendre du temps devant le Seigneur. Et cela va nous donner cette possibilité de nous efforcer pour porter le fruit de la maîtrise de soi dans notre vie. Et savoir comment je peux utiliser ma liberté, la liberté que le Seigneur nous a donnée pour défendre mes droits sans causer du tort à mon frère. Pour peut-être dire la vérité dans l'amour sans s'énerver. Par exemple, s'il y a quelque chose, je vais dire la vérité et je sais que ce que je dis est la vérité, mais comment je peux le dire sans m'énerver, sans me mettre en colère? C'est la maîtrise de soi. C'est le fruit de l'esprit qui nous permet de dire cette vérité avec amour, cette vérité avec beaucoup de tendresse et avec beaucoup de respect. C'est ce qui manquait certainement aux Corinthiens et Paul les écrit pour les inviter à se maîtriser et à faire tout pour le bien des frères et sœurs dans l'Église. Ensuite, sortir aussi de sa zone de confort. S'entraîner nous amène à sortir de sa zone de confort. Jeûner, ce n'est pas simple. Se lever le matin et voir le café, le lait, le pain chaud, avec du beurre, avec de la confiture, et tu le laisses tranquillement à sa place en disant aujourd'hui là, je te dis au revoir. Au revoir et à demain. C'est pas simple. Ça demande vraiment de sortir de sa zone de confort. Et la vie spirituelle est là. C'est là que nous pouvons à un moment dire je peux sortir de ma zone de confort parce que je veux plaire à mon Seigneur, parce que aujourd'hui je veux réellement me rendre disponible en pensée, dans mon être intérieur, être en contact, en intimité avec mon Seigneur pour prier et pour rechercher sa face. Que le Seigneur nous aide à sortir de notre zone de confort aussi, dans le repas par exemple, dans certaines choses que nous, peut-être d'une manière naturelle, nous n'allons pas le faire, mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons sortir de nos zones de confort. Donc, s'entraîner. Et tout cela vient petit à petit. En faisant le premier pas, on peut aller plus loin et on peut faire plus. Parce que le prix que nous sommes en train de chercher, ce n'est pas le salut. Nous avons entièrement le salut. Nous avons la joie d'être dans la vie chrétienne et réellement d'être sûr que le Seigneur nous a sauvés et d'être sûr que nous allons passer l'éternité avec lui. Mais le prix que nous sommes en train de rechercher, c'est la récompense céleste. La récompense céleste est celle que devant le trône de Dieu, la couronne que le Seigneur va mettre sur notre tête. Bienvenue, mon enfant. Tu as été fidèle en peu de choses. Et maintenant, je t'accueille dans mon royaume et je te donne la couronne de vie, la couronne de joie, la couronne de paix, la couronne de gloire. Quand nous nous entraînons, nous visons un but. Si nous nous entraînons, on s'abstient de tout et on court avec persévérance. Et si nous ne visons pas un but, notre entraînement ne portera pas de fruit. Parce que Paul dit, si je cours, je ne cours pas à l'aveuglette. Je ne cours pas dans tous les sens. Je suis dans mon couloir et je cours. Au niveau du stade, quand on donne les sianes, chaque athlète a son couloir dans lequel il court avec persévérance, en respectant son couloir, en respectant là où le Seigneur est. On lui a mis. Par exemple, je prends l'exemple d'un athlète. On donne le top départ et lui, il quitte le couloir 5 et il va au couloir 6. Après, il va au couloir 8 et il revient au couloir 2, 3. Et finalement, il ne va pas aller plus vite. Il ne va pas aller plus loin. Et surtout, il va gêner les autres. Oui, il sera immédiatement disqualifié parce qu'il a fait une faute grave. Voilà, ça c'est important. Il peut être disqualifié aussi. Il sera disqualifié. Voilà, merci. Donc, viser le but veut dire le Seigneur m'a placé là. Et mon couloir, c'est là, et je vise le but. Quel est le but que nous devons viser, nous, en tant que chrétiens engagés dans cette course? Viser le but, c'est viser la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, tant qu'on n'est pas arrivé, on ne dépasse pas la ligne d'arrivée, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas dire maintenant, j'ai fait le tour, un tour de stade, donc maintenant je m'arrête. Ça serait être aussi disqualifié comme Marie-France l'a évoqué tout à l'heure. Viser le but, c'est notre ligne d'arrivée, c'est l'espérance de la vie éternelle devant le trône de gloire de notre Seigneur. Tant que nous ne sommes pas arrivés devant le Seigneur, nous devons continuer à courir. Ça, c'est notre but. Notre but, ce n'est pas simplement rester à l'église. Notre but n'est pas simplement occuper une responsabilité à l'église. Notre but, ce n'est pas de répondre à un ministère. C'est plus que ça. Notre but, c'est la finalité avec le Seigneur. Tant que nous ne sommes pas à la finalité, la dernière trompette, quand l'archange va prendre la dernière trompette et sonner, pan, je siffle la fin. Et maintenant, le Seigneur est là et il nous accueille. C'est là que nous sommes arrivés. Chacun de nous est appelé à viser ce but. Si nous sommes en train de viser ce but, nous n'allons pas nous relâcher parce que nous ne sommes pas arrivés. Si nous visons ce but, on ne va pas dire j'ai échoué ici, donc c'est terminé. J'ai échoué dans ce ministère, donc c'est fini. ou bien j'ai eu des problèmes ici, donc c'est fini. Non, le but, c'est Christ, sur Christ, l'espérance de la vie éternelle. Paul insiste à plusieurs reprises dans ses écrits sur la persévérance des chrétiens. Et lui-même, il le dit dans le dernier verset. Je ne veux pas prêcher la parole aux autres et moi-même arriver disqualifié. Disqualifié, ça ne veut pas dire perdre son salut. Paul ne prêche pas à la perte du salut ou conditionné avec quelque chose, mais juste pour dire que la récompense finale devant le Seigneur lui tient à cœur. Ce n'est pas juste être missionnaire ou être apôtre qui l'intéresse plus. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment arriver au bout de la mission que le Seigneur lui a appelée. Paul va dire à la fin, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ah, cette parole doit nous interpeller et ça m'interpelle. 2 Timothée 4, verset 7, il dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, parce qu'il visait simplement la ligne d'arrivée et il s'est dit, maintenant, je suis arrivé. J'ai gardé la foi et j'ai resté fidèle au Seigneur. Que notre jeune aujourd'hui soit vraiment dans le but, non pas seulement pour cette année, non pas seulement pour un coup dans l'année, mais vraiment viser haut. Le but, c'est d'être en forme, de nous maintenir spirituellement, d'être spirituellement dynamique avec le Seigneur, en relation avec lui, pour la finalité céleste de la récompense finale. Paul évoque cette persévérance et interpelle les chrétiens à ne pas se relâcher pour perdre le prix. Ne pas se relâcher, ne pas se décourager, ne pas s'engager dans la course d'une façon sans sérieux. Que le Seigneur nous donne cette force et cette possibilité de ne pas nous relâcher par les événements et les circonstances actuelles. Combien de chrétiens se retrouvent découragés parce que des circonstances de la vie les amènent à regarder seulement ce qui est présent aujourd'hui. Regardons ce qui arrive. La gloire de Dieu qu'il veut nous faire entrer, qui arrive, c'est cela que nous devons regarder. Et cela peut nous aider à sortir des difficultés actuelles que nous vivons. C'est réel, mais on ne va pas rester là. De toute façon, il y a un monde nouveau qui nous attend. Il y a un monde où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus ces souffrances-là. On ne pourra plus gêner. Amen. On ne va plus avoir besoin de gêner parce que ça serait une éternité d'abondance meilleure. Quels sont les obstacles maintenant à la persévérance? C'est le découragement, comme nous l'avons dit. Si nous sommes découragés, on risque de s'enliser et de ne plus avoir le goût de persévérer. Mais le fait de revoir encore, je vais me mettre en route parce que j'ai besoin de persévérer avec le Seigneur. Et donc, je me mets dans un état d'esprit de persévérance. Prenons l'exemple de la voiture. Si vous avez une voiture, je pense que chaque année, vous faites des révisions. Vous faites le contrôle pour voir dans le moteur qu'est-ce qui ne va pas, dans les freins, est-ce que ça marche? Les phares, est-ce que ça marche? La fois dernière, Giuliano, j'étais en train de sortir la voiture du parking et il m'a dit, est-ce que tu as regardé tes phares? On dirait que tes feux ne fonctionnent pas. Quand tu mets le pied sur le frein, on ne voit pas le feu allumé. Et je lui ai dit, effectivement, on va voir ça. Notre vie spirituelle aussi est pareille. Il y a des moments où on a besoin de s'arrêter, on a besoin de dire, Seigneur, j'aimerais aller devant toi, j'aimerais venir devant toi aujourd'hui pour faire un check-up, pour voir dans ma vie intérieure, il y a des choses qui ont besoin d'être nettoyées, remises à niveau et remises en forme. C'est pourquoi nous sommes appelés à viser le but, à viser le but tout en cherchant à nous entraîner, tout en cherchant à revenir vers le Seigneur pour aller plus loin avec lui. Qu'est-ce qui, à un moment donné, ne nous permet pas de persévérer? C'est les soucis de la vie. Les soucis de la vie quotidienne. Nous avons des soucis. Par exemple, tout à l'heure, on a reçu nos amis visiteurs. Ils ont tapé à la porte et ils ont demandé, on a besoin à manger. On a besoin à se doucher, à se laver. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas douché. Les soucis de la vie partent du plus, des plus petits détails au plus gros des soucis. Manger, boire, se nourrir, ensuite notre bien-être, la sécurité, un toit, ça peut nous amener à dire, est-ce que c'est la peine de persévérer? Parce que avec tous ces soucis que j'ai dans ma vie, est-ce que c'est la peine d'aller plus loin que ça? Et là, j'aimerais nous inviter ce matin, je sais peut-être qu'ils sont sortis, mais cette parole, peut-être, est pour eux et pour nous aussi. Les soucis de la vie ne doivent pas entièrement enlever la semence, la graine de vie que le Seigneur a mise dans notre vie, dans notre cœur. C'est comme la graine, et Jésus prend la parabole de la semence qu'il a versée sur la route et d'autres graines sont tombées dans les pierres, dans les herbes, et les oiseaux sont venus enlever et picorer tout. Et la graine n'a pas porté de fruits. Les soucis de la vie, pour chacun de nous, oui, il y a les soucis de la vie. Chacun de nous a ses propres problèmes, ses fardeaux. Nous avons des problèmes de santé, nous avons des problèmes de vie. D'une manière de toi, on ne manque pas de problèmes. Si vous êtes vraiment sûr que vous n'avez aucun problème, dites-moi, je viendrai vous voir. Sur la terre, tous, même en tant que chrétien, on a toujours des soucis, des problèmes. Mais ces problèmes ne doivent pas nous arrêter. Ces problèmes ne doivent pas nous amener à dire maintenant j'arrête, j'ai trop de soucis, donc maintenant je ferme ma porte et je reste à la maison et je ne parle plus à personne. Cela serait dangereux pour nous-mêmes. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle. Paul nous a, j'appelle à travers ce texte en disant, courez. Persévérer, Ne vous arrêtez pas là. Mais sachez que le Seigneur tient compte de vos problèmes, de vos soucis. Que le Seigneur nous interpelle et nous amène à nous dépasser et à dépasser notre zone de confort pour glorifier le Seigneur, pour jeûner et prier. J'aimerais terminer en prenant une anecdote. Le jeûne et prière, c'est important pour notre vie. Je ne vais pas dire ça comme une règle où celui qui ne le fait pas n'est pas spirituel ou n'est pas chrétien ou n'est pas fort pour culpabiliser. Mais j'aimerais vous affirmer que j'ai vu de mes yeux et touché du doigt le bienfait du jeûne et de la prière. Un jour, un frère qui rentrait dans le ministère a eu dans son cœur la volonté de prier et de jeûner. De jeûner et de prier plutôt. Et il s'est dit, je vais rester dans le jeûne et prière. Tant que le Seigneur ne me dit pas d'arrêter, je n'arrête pas. Et il est rentré dans sa maison. Et il a dit, je vais rester avec le Seigneur tant que le jour que le Seigneur ne m'a pas mis dans le cœur d'arrêter, je n'arrête pas. Il a fait un jour, deux jours, trois jours, nuit, jour et nuit, en priant. Et on pensait qu'il allait sortir le troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Il a fait comme ça pendant 12 jours. Le 12e jour, il est sorti, il a organisé une veillée de prière. Et dans la veillée de prière, il a commencé à prier. Et lorsqu'il commence à prier, vraiment, on a vu des miracles se passer devant l'assemblée. Et les gens ont appelé la police en disant qu'il y a quelqu'un qui est là, il est en train de faire des choses bizarres. Et la police est venue, la gendarmerie est venue pour contrôler et voir ce qui se passe. Et lorsque la gendarmerie est arrivée, tous les gendarmes étaient à terre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils étaient tous à terre. Et ces jours-là, ils se sont donnés au Seigneur. Et là, je cite cet exemple, pas pour dire que le jeûne fait des miracles, c'est Dieu qui le fait, mais lorsqu'on s'abstient dans le jeûne et dans la prière, le Seigneur, on est en relation et en intimité. On peut entrer en relation et en intimité avec le Seigneur. Ces jours, il y a eu des convertis. Pourtant, ils ont prêché la parole pendant des jours et des jours. Mais ils n'ont pas vu le fruit de la conversion pendant des jours et des jours. Et nous voyons ici que le jeûne et la prière peuvent nous aider à renouveler notre relation avec le Seigneur et à permettre que les blocages et tout ce qui peut empêcher les uns et les autres d'entendre la parole, de comprendre la parole et de mettre leur foi dans la parole que nous proclamons puisse s'ouvrir. Et le jeûne va avec l'évangélisation. Le jeûne et la prière vont avec l'évangélisation, comme Nadine nous l'a dit hier. Jeûner et prier fait partie d'un ministère important qui peut nous aider à redynamiser notre foi et aussi à porter la parole de Dieu et à proclamer l'Évangile. Que le Seigneur nous aide à rester sereinement attachés à sa parole Et à ne pas négliger de faire des efforts. L'effort, ce n'est pas du légalisme. L'effort, ce n'est pas de l'ascétisme. C'est ridoyer le corps pour juste parce que je vais avoir le salut. Mais l'effort fait partie de notre vie spirituelle. Que le Seigneur nous aide, en tout cas, à continuer à vivre notre foi d'une manière pleine et d'une manière attaché à lui dans la prière. Si nous ne voulons pas, si nous ne pouvons pas gêner, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de culpabilité. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas gêner parce qu'ils sont malades, parce qu'il y a une maladie qui empêche de gêner. Ce n'est pas grave. Mais si le Seigneur t'a donné des conditions physiques qui sont adaptées et qui peuvent rester dans le jeûne, n'hésite pas, personnellement, individuellement et aussi collectivement, d'entrer dans le jeûne et la prière. Nous allons conclure. L'effort de l'entraînement, la discipline spirituelle, la concentration avec détermination dans la prière et la persévérance sont les traits du quotidien de l'athlète. Ces exigences, quoique difficiles, sont sans commune mesure à la récompense qui nous attend là-haut devant le trône de grâce de notre Seigneur. Que le Seigneur nous aide à ne pas négliger l'effort. Souvent, la grâce va avec l'effort. Le Seigneur produit en nous le vouloir et le faire et nous permet d'être vigilants et d'être déterminé à se discipliner pour le Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ces moments que nous partageons ensemble. Nous avons vu que Paul lui-même, en tant qu'apôtre, oui, exigeait à son corps une discipline sévère en supportant les détresses, les souffrances afin de te plaire, afin de glorifier ton nom. Seigneur, ce matin, nous avons parlé de cette discipline spirituelle concernant le jeûne et la prière, mais nous savons que toi, tu nous devances en tout point. Tu as jeûné 40 jours dans le désert aride afin de porter toutes les détresses, la souffrance de notre monde. Seigneur, tu as été tenté en toutes choses. Pendant ce jeûne, tu as été tenté au niveau physique, au niveau de la faim, au niveau de la soif, au niveau de la gloire, de la richesse, de la gloire, au niveau, Seigneur, de ton corps, Seigneur, tu as souffert, mais tu ne t'es pas laissé abattre par la souffrance, par les besoins de ton corps. Seigneur, dans le but d'aller à la croix, dans le but de porter les péchés du monde. Seigneur, ce matin, oui, sans nos jeûnes, tu as déjà payé le prix. Sans ce que notre astreinte physique, spirituelle, notre discipline spirituelle, tu as déjà payé le prix. Nous ne pouvons rien ajouter. Nous ne pouvons rien retrancher. Mais simplement, nous voulons demander ta grâce pour courir, pour persévérer, pour vivre une foi dynamique en relation avec toi, Seigneur. Nous te demandons, Éternel, de visiter nos vies. Tu connais nos muscles spirituels. Tu connais là où nos muscles n'ont plus de force. Seigneur, relève ces muscles. Renforce nos muscles afin que nous puissions avancer afin que nous puissions courir avec persévérance dans la joie et dans ta paix. Visite encore ton Église. Seigneur, donne-nous ta grâce d'être une Église qui vit, une Église qui vit une foi dynamique dans la prière, et que, Seigneur, nous puissions avancer ensemble pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que les œuvres de l'ennemi sont en défaite. Les œuvres de l'ennemi sont en échec, parce que tu fais de telle sorte que ton Église triomphe, que ta jeunesse soit une jeunesse qui ne prend pas juste le plaisir dans ce monde, mais une jeunesse consacrée à toi, dans la prière, dans le jeûne et la prière. Seigneur, tu fais de telle sorte que ta jeunesse ne soit pas une jeunesse, Seigneur, qui est livrée à elle-même dans ce monde incertain, mais une jeunesse qui a une vision, qui vise, Seigneur, ton royaume, qui vise, Seigneur, de te plaire, qui vise de glorifier ton nom, qui vise d'apporter l'évangile à ce monde désespéré. Père, merci pour ta grâce et merci pour ta présence ce matin. Que ton esprit visite chacun. Ceux qui ne peuvent pas jeûner et prier, Seigneur, nous te demandons de leur donner ta paix, de rassurer que les frères et sœurs sont là pour jeûner et prier. Et que, Seigneur, même sans le jeûne, on peut jeûner aussi. Sans le jeûne d'astreinte physique, on peut jeûner aussi en donnant nos biens à ceux qui n'en ont pas, en libérant ceux qui sont captifs, en donnant du pain à ceux qui ont faim et en donnant à boire à ceux qui ont soif. Cela aussi fait partie, Seigneur, de ce jeûne-là. Nous voulons te demander que ces personnes, oui, puissent aussi se consacrer d'une manière avec sagesse et d'une manière équilibrée à cette discipline spirituelle qui peut nous aider à aller plus loin pour la gloire de ton nom. Bénis encore ton Église et bénis ces moments que nous avons passés ensemble et merci pour cette continuité dans la prière avec les jeunes que nous allons, oui, soutenir. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen.